podcast.
Février, c'est parti pour un autre épisode de Radar, mais c'est aussi parti pour les Jeux Olympiques. On est content de vous retrouver encore une fois cette semaine avec mes fidèles compagnons Olivier Paiement.
Enfin, les gars! Enfin, on est là. Et ça faisait 12 ans qu'on attendait ce moment-là. Moi, il y a 12 ans, j'avais 12 ans. Fait que ça vous montre à quel point les temps ont changé.
Mais est-ce que... Puis salutations à toi aussi.
Salut, mon déso.
À l'époque, là, aviez-vous conscience que c'était les Jeux Olympiques et c'était d'une envergure importante?
Ah oui. Ou... Okay, ben oui. Ouais. Mais c'est juste qu'à l'époque, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la dernière fois avant très, très longtemps.
Non, c'est
On a eu la Coupe du Monde, la Quatre Nations, mais... C'est pas la même chose.
Ça a aidé aussi que Vancouver, tu sais, en 2010, à Vancouver, on était jeunes, il y avait déjà comme une importance. Après ça, on dirait que ça a suivi. En tout cas, pour moi, ça a suivi. Ouais. Avec Sochi, il reste après. Là.
Ouais, c'est sûr que le fait que c'était à Vancouver, la façon, on se souvient tous comment ça s'est terminé. Pas que Sochi, c'était pas spécial, mais Canada était tellement fort. Je veux dire, Price donnait absolument rien.
3 buts dans le tournoi. C'est fou.
C'est incroyable.
C'est fou.
Est-ce que Jordan Pennington va donner seulement 3 buts dans le tournoi aussi?
Mais là, il n'en a donné aucun. Dans le match contre la Tchéquie. Puis, tu sais, c'est pas comme si les Tchèques ont nécessairement poivré Bennington. Là. J'essaie de sortir les tirs. 26 tirs. Peut-être 2 à 3 très beaux arrêts de Bennington sur Pasternak, notamment, il s'est signalé. Ouais.
Mais ce qui compte. Couché à terre aussi sur David Kemp.
Ouais. Ouais. Ce qui compte, c'est qu'il a fait les arrêts, il a fait le travail. Puis pour le moment, il a calmé les détracteurs de Bennington. Il a répondu présent.
A-t-il été assez solide pour qu'à votre avis, peu importe la performance de Logan Thompson, ce sera Bennington qui obtiendra le 3e départ?
Ça va être intéressant. Honnêtement, j'ai hâte de voir Thompson parce qu'il y a eu une bonne prestation. Il y a eu, je dirais, on pourrait les compter sur les doigts d'une main les chances A, mettons, qui ont eu les checks dans ce match-là. Les arrêts ont été là. Puis... un grand avantage de Jordan Bennington, c'est qu'il joue tellement bien la rondelle. Puis honnêtement, ça, je pense que ça peut vraiment lui être bon là, pour le reste du tournoi. Là.
Parce que c'est pas long. Là. C'est 3 matchs préliminaires où est-ce que la victoire ou la défaite n'a pas une énorme importance. L'important, c'est de terminer dans le top 4 pour t'éviter le match supplémentaire. Tu te positionnes bien au classement, tu auras un adversaire plus faible. Mais au final, tu peux être 0-3 et quand même gagner la médaille d'or. Là. Mais au final, mon point, c'est de dire que si tu arrives et que tu hésites encore entre Bennington et Thompson... Bon, tu décides assez rapidement parce que tantôt, ce sera élimination directe.
Pour moi, Bennington doit être considéré comme le numéro 1 tant et aussi longtemps qu'il ne perd pas son filet, qu'il ne perd pas un match de façon convaincante.
Ouais, mais il pourrait perdre un match de façon convaincante et le Canada est éliminé. C'est ça le point.
Mais rendu là.
Ouais, sauf que si c'est le gardien qui t'a amené là, c'est le vote de confiance.
C'est ça, parce qu'on va être rendu plus tard dans le tournoi quand même. Bennington va avoir eu. Ça va avoir été son 3e départ, au moins, rendu là.
Fort probablement, parce que tout porte à croire que ce sera demain Logan Thompson contre la Suisse, et ça devrait être un des deux contre les Français dimanche. Mm-hmm. Et j'ose croire que ce sera Bennington encore, parce qu'il n'a rien fait qui fait en sorte qu'on devrait le retirer de la rencontre. Et c'était quand même une belle opposition de l'autre côté, Pasternak, Netchans, tu sais.
Il y a eu à faire des bons arrêts, là. C'est pas comme s'il a reçu 6 tirs.
Non.
Comme quand les filles ont joué contre la Suisse la fin de semaine passée.
Non, exact. Quand même un peu d'attaque aussi à travers ça. Plusieurs joueurs se sont signalés. Commençons par celui que je considère comme le meilleur joueur sur la planète, Connor McDavid. Il n'a peut-être pas marqué, s'est fait voler un but d'ailleurs sur un 2-1. Mais honnêtement, il était en mission dès le début de la rencontre. Tu voyais que les maniements de rondelle, la vitesse et même les coups d'épaule, messieurs, il a servi une percutante mise en échec dès le début du match.
Ben, ça aide de jouer avec Tom Wilson, ça c'est sûr.
Ça donne la confiance.
C'est un petit peu plus libre sur la glace. Mais il a été vraiment bon quand un McDavid, 3 passes. Puis j'ai beaucoup aimé son trio avec Celebrini et Wilson. Les 3 se complémentent très, très bien. Tu as senti que McDavid a pris charge. Sur l'avantage numérique aussi, il a été excellent. Une passe magistrale pour le but à Nathan MacKinnon. Ça a été le meilleur joueur du Canada, selon moi, dans le match.
Ouais, il a pris beaucoup de confiance. Et honnêtement, Marklin Celebrini aussi a très bien fait. J'avais peur qu'il soit un peu intimidé. Non, il a été là, rouleau compresseur tout de suite. On s'est adapté au rythme rapidement. C'était super complémentaire comme ligne. Encore une fois, orchestré par Connor McDavid. Il voulait faire ce qu'il voulait.
Très beau but de Celebrini, là, surtout, sur la déviation.
Surtout dans le moment.
Ouais.
T'sais, c'est pas... Le Canada commence en force. Les 10 premières minutes, vraiment, on était partout. Ouais. Momentum, des chances de marquer, des mises en échec. Il y en a eu quelques-unes, dont celle de McDavid. La deuxième moitié de la première période, c'était peut-être un petit peu plus au neutre. Et là, tu vas chercher le but, le reste de mémoire, 5 secondes à faire. Tu prends les 20-0, tu retraites au vestiaire avec une avance. À partir de ce moment-là, le Canada n'a plus jamais regardé derrière. C'est vraiment Celebrini. C'est une belle déviation bien passée devant le filet qui a fait la différence.
Ouais, ouais, parce qu'à 0, plus le 0-0 il perdure, plus tu dis « Oh boy, qu'est-ce qui pourrait se passer? » Les Tchèques sont à un but de nous mettre dans le trouble. Mais là, d'être allé chercher ça à la fin de la période, puis là, rendu en deuxième, le Canada t'a senti, il a pris sa vitesse de croisière. Mmh. Les Tchèques n'ont pas été très, très menaçants après cette première période-là. Puis on a senti que tout le monde a mis la main à la pâte.
Ouais.
Les quatre trios du Canada ont été dangereux à un certain moment.
Ouais, puis honnêtement, qu'est-ce qui était très bien aussi du côté du Canada, ça a été le fait qu'on remportait quasiment toutes nos mises au jeu. On était tout le temps en possession de la rondelle. Sérieusement, c'était vraiment, vraiment impressionnant à quel point on était capable de dicter le rythme de cette rencontre-là. Malgré tout, tu sais, Martin Nečas a eu quand même des bonnes chances. David Pastrnak aussi, ça a vraiment été naturellement les deux meilleurs joueurs de la Tchéquie. Mais le fait d'avoir tout le temps le contrôle de la rondelle, ça l'a vraiment, vraiment payé pour le Canada.
Ben écoute, on a gagné quasiment toutes les mises en jeu. Je sais pas s'il y a des stats qui sortent à ce niveau-là. Là, mais
55-45.
Ben, honnêtement, là, peut-être que c'est réellement ça, mais c'est pas l'impression du tout que ça donnait en regardant le match.
Non, non plus.
J'ai tout le temps l'impression que le Canada avait la rondelle sur sa palette.
En fait, c'est que plus le match est avant... T'sais, 48% en première, c'était un petit peu moins, mais rendu en deuxième et troisième, 59% puis 60%.
Ouais, c'est
fait
ça.
Il y a eu une petite adaptation au début, puis là, ils ont pris charge. Mais tu sais, en fait, chaque trio a marqué un but essentiellement quand tu y penses, là. Tu as eu le but de Celebrini avec le premier trio.
Ouais.
Nick Suzuki qui a marqué un but.
Ouais.
Sur le troisième trio, Mitch Marner en a
et
marqué
Mark Stone.
Un.
C'est Mark Stone qui a marqué.
Mark Stone sur la passe de Marner. Ouais. Et Boervat aussi qui a marqué. Fait que tout le monde a contribué. Puis je pense que c'est ça aussi l'objectif de John Cooper. C'est d'avoir des lignes où tout le monde peut contribuer. Tout le monde est capable de quand même bien jouer défensivement aussi. Fait que tu te retrouves pas à surutiliser McDavid ou McKinnon ou Crosby.
Ouais, on en parlera peut-être un peu plus tard tout à l'heure là, des autres matchs olympiques parce qu'on va faire un podcast un peu plus écourté parce qu'il est quand même plus tard qu'à l'habitude puis veut pas la journée avance. Mais dans un autre match hier, tu as vu Philip Forsberg jouer à peine plus d'une minute.
Ouais.
Oliver Ekman-Larsen est complètement laissé de côté. Tu voyais que du côté de John Cooper, on avait une volonté d'impliquer tout le monde et je pense que ça, ce sera important parce qu'au cours de la deuxième période, Josh Morrissey s'est blessé, il a quitté le match, il n'est pas revenu. Est-ce qu'on a décidé de ne pas le ramener parce qu'à ce moment-là, c'était 3-0 puis on se disait, quand je dis 3-0, là, je parle du début de la troisième période,
ouais.
Là, on se disait, écoute, ça ne vaut pas nécessairement la peine de le surutiliser dans une pareille situation. Où est-il vraiment mal en point? Ben, tu sais, chose certaine, à jouer en 7 défenseurs, ça évite ce genre de problème-là.
Ouais.
Puis en plus, tu as Travis Sanheim aussi qui est sur la galerie de presse.
Et là, en passant, vu que le Canada a joué son premier match, même s'il y a des blessés, tu peux plus ajouter de joueurs à ton équipe. C'est pas comme aux 4 Nations l'an passé où on était un petit peu plus laxiste par rapport à ça. Les joueurs que le Canada a à Milan, c'est ceux qui vont faire tout le tournoi. Donc là, si Travis Sanheim était laissé de côté, si jamais Morrissey est blessé, ça va être lui. Mais je sais pas trop. J'espère que c'est pas trop grave quand même. Dans le cas de Morrissey, c'est un des seuls à Paul McCart qui vraiment est
il est
un vrai puck moving
defenseman.
Ben, Theodore est capable aussi.
Harley aussi, ouais. Mais... En termes de générer l'attaque, pour moi, c'est le deuxième après McCart.
Okay, ça veut dire que s'il y a une autre blessure de défenseur, on jouera 14 attaquants, 6 défenseurs. Ce qui serait spécial, mais ce qui serait fort probablement la chose qu'on va préconiser. Les gars, parlons de Nick Suzuki. Je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé vraiment visible dans le match. Il a été privé d'une mention d'aide sur le premier but potentiel du Canada lorsque son bâton s'est logé dans les patins de son adversaire, ce qui a enlevé le but de Nathan MacKinnon. Il a marqué par la suite sur une belle déviation. Il a eu plusieurs flashs, plusieurs chances de marquer. Tu trouves que ça a été un bon match pour le capitaine du Canadien?
Ouais, vraiment. Et on sent vraiment la confiance que John Cooper a envers Nick Suzuki. Oui, la pénalité, malheureusement, ça a été dommage pour lui. Après ça, on dirait qu'il y a eu un certain rééquilibre à ce niveau-là. Mais a été présent dans une équipe où il y a beaucoup, beaucoup de star power. Mm-hmm. Puis il faut considérer le fait qu'il fait partie de ce star power-là, veut pas Nick Suzuki, parce qu'il est capable d'alimenter le jeu, de complémenter ses coéquipiers de bonne manière. Puis il faut aussi se rappeler qu'il est dans un rôle d'allié. C'est un rôle différent.
Ça.
C'est pas le premier centre du Canadien.
Il n'a jamais été allié dans sa vie, nécessairement. Il y a quand même une adaptation, puis je l'ai trouvé bon dans ces circonstances-là.
C'est pas le seul, par contre, dans un contexte olympique canadien qui passe du centre à l'aile. C'est pas un surhumain
comme
exploit
non plus.
Non,
puis c'est beaucoup plus facile de passer du centre à l'aile que de l'aile au centre, mais exact. Ça nécessite quand même une adaptation. Parce que les sorties de zone, comment ton bâton va se placer.
C'est un style de jeu plus rapide, les relances aussi, une patinoire plus courte. Il y a beaucoup de contexte là-dedans. Là.
Et j'ai trouvé que Nick Suzuki était peut-être un petit peu plus physique, fonçait plus au filet que quand il joue pour le Canadien. T'sais, il a eu son but sur sa déviation. Il y avait eu une autre déviation en première période qui a presque fonctionné. Il a failli marquer là-dessus. J'ai trouvé qu'il était plus dans la zone payante qu'avec le Canadien, vraiment le nez dans le filet, devant le gardien.
Mais tu viens de le dire, Oli, il joue à l'aile.
Ouais,
quand tu es au centre, tu as toujours cette conscience-là de défensive, surtout que Suzuki, tu sais, pas pour rien qu'il est favori au Selkie, parce qu'il est conscient qu'il doit se replier, qu'il doit appuyer ses défenseurs, qu'il doit revenir dans sa zone. En tant qu'ailier, il est peut-être un petit peu plus. Un peu plus de latitude à ce niveau-là pour être capable justement d'avoir des chances de marquer. Moi, j'ai bien aimé. Son rythme, son dynamisme sur la glace. Parce que Suzuki, c'est pas le gars le plus spectaculaire, le plus rapide.
Non, c'est pas sa force, son patin.
Mais
non.
Clairement, là, tu voyais qu'il y avait un momentum, une énergie au sein de la formation canadienne et il ralentissait pas le groupe. Là. Il a embarqué là-dedans. J'ai aimé ça, moi, voir ça.
Mais j'aime le point que tu apportes par rapport à la confiance, par rapport au rythme, de l'agressivité. T'sais, on a eu beaucoup de doutes là, au début par rapport à la sélection de Tom Wilson. Il y avait du monde qui était pas nécessairement d'accord avec sa sélection, mais. Au final, en regardant le premier match du Canada, est-ce qu'on réalise que cet apport physique-là a juste donné de la confiance sur le groupe entier? Parce qu'on dirait que pour les récupérations de rondelles, les batailles à un contre un, on finissait toutes nos mises en échec quand c'était un jeu en relance. Honnêtement, moi j'ai trouvé que l'apport de Wilson a comme amené une confiance au sein du groupe. Puis on a vu des facteurs physiques qu'on voyait peut-être un peu moins quand ils jouaient pour leur équipe dans la Ligue nationale.
On a vu Wilson frapper, on a vu Bennett frapper, on a vu McKinnon frapper. On a vu plusieurs joueurs vraiment s'impliquer pour gagner nos bagarres, si bien qu'on était capable de maintenir l'attaque en vie et d'aller chercher justement des chances de marquer à ce niveau-là. Non, ça a été vraiment intéressant. Et Suzuki, il a marqué sur une belle déviation, ce qui n'était pas facile à faire. Je pense que la plupart des joueurs auraient cherché à contrôler la rondelle et essayer de la ramener de l'autre côté. Il a préféré de la faire dévier de brillante façon. Peut-être que c'est plus facile à faire lorsqu'on est en troisième période avec une avance confortable. Mais quand même, moi, j'ai vraiment aimé le match dans l'ensemble. Et je pense pas que Suzuki... on a préféré le placer avec McKinnon. Qui soit dit en passant, j'ai trouvé qu'il a connu un match correct, là, en deçà de ses standards.
Mais capable Suzuki, d'en faire plus.
Mais Suzuki en a assez fait pour justifier sa place au sein de la formation. Puis c'est le fun de le voir évoluer avec des bons joueurs. Pas que Caulfield n'est pas un bon joueur, mais vraiment des deux joueurs de talent sur son trio, c'est là qu'il montre de quel bois il se chauffe.
Exact. C'est là que tu peux voir le vrai potentiel des. Ben, pas le vrai potentiel, mais le. Je dirais les capacités maximales du joueur. Là, parce exact. Que là, il joue vraiment avec du monde de talent.
Peux-tu creuser sur McKinnon?
Ouais, mais tu sais, McKinnon, surtout si tu compares son match à celui de McDavid, j'ai trouvé qu'il prenait peut-être un petit peu moins charge et qu'il avait de la misère souvent à finir le jeu. Il transportait la rondelle. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas assez la familiarité pour jouer avec Suzuki et Gold, deux gars qu'il connaît moins. Mais McKinnon, va falloir qu'il en donne un petit peu plus si le Canada veut être capable de passer loin dans ce tournoi-là. Quoique, en avantage numérique, il a marqué un beau but. Là, pour de vrai, c'était...
J'ai aimé placé. La mentalité canadienne en avantage numérique. Ouais. On a marqué sur la tentative
la rondelle,
en troisième.
Elle allait tellement vite.
Première période, on n'a pas passé 45 secondes ainsi, le tic-tac-toe parfait. On se passe la rondelle, on a une chance, on lance, on la récupère, on continue. Autre chance. Puis vraiment, la première vague, il y a tellement de talent sur cette attaque à 5.
Ça va très vite.
Fait que parfait là, que ça vienne de partout. Ouais. Puis give and go, Crosby, McDavid, de l'autre côté, McKinnon, ça remonte à Makar. Tu sais, c'est le fun. Et effectivement, tu as bien le souligné, Oli, ça va l'air d'un jeu de l'aréna.
Ben, on dirait
là,
qu'il était en pratique.
Cartier,
là.
Exact.
Ouais, 100%.
Les joueurs tchèques étaient... des cônes là, ou des gars qui, tu sais, des fois, quand tu veux pratiquer des situations précises, tu demandes à tes coéquipiers de pratiquer, mais ils se donnent pas à 100%. Là, juste soit là puis bouge, on dirait que c'était ça. Là, que c'était, ils pratiquaient comme des dummies. Puis
ça a été un début les plus faciles
de la carrière
de Nathan
Mayer. Ah, sérieusement, mais tu sais, j'aimais aussi la créativité que les joueurs ont eue justement proche de Lucas Dostal. On dirait que là, on a vraiment pris la peine d'hypnotiser le gardien de but pour amener le jeu complètement de l'autre côté. Tu sais, sur le but de Mark Stone, ça a été ça, sur une superbe passe de Mitch Marner. Mais Mitch Marner, T'sais, le feinté un peu avant, là, on remet ça à Stone. Même chose pour McDavid. On est arrivé très, très proche de Dostal. Finalement, on remet la rondelle quand le gardien est complètement compromis d'un bord. Honnêtement, ces jeux créatifs-là, c'est ça qui va faire en sorte que le Canada pourra aller chercher 2-3 buts tout au long du tournoi qui vont être super importants pour leur parcours. Là, sérieux.
Ouais, glissons-en un mot de cette connexion-là de Vegas qui a trouvé le fond du filet. Moi, je l'ai bien aimé, Warner, honnêtement. J'ai trouvé qu'il avait connu un bon match dans l'ensemble. Et sur ce jeu-là, honnêtement, de couper au centre, de couper devant le filet, baisser l'épaule, la passe soulevée parfaite par-dessus la glissade du défenseur pour Mark Stone, c'était, à mon sens, c'était le plus beau but du match. Là. Ouais, c'était vraiment spectaculaire.
Absolument, absolument, sérieux. Puis la réception de Stone aussi, là, je veux dire, c'est difficile à capter une passe de cette distance-là, à cette vitesse-là. Ouais. Honnêtement, une superbe coordination, mais oui.
C'est fou comment, quand tu regardes une équipe comme le Canada, tu sais, dans un match contre la Tchéquie, il n'y a pas de garbage goal.
Non, non.
Tous les buts, ou presque, c'est des beaux buts. Puis c'est tellement des joueurs de talent. Surtout quand, comme Marner et Stone, ils ont une chimie ensemble, ça fait en sorte qu'il y a une vitesse d'exécution que tu peux pas comparer. Puis sincèrement, c'est comme si on réapprend un petit peu à découvrir Mark Stone. Là, on l'a beaucoup oublié dans les dernières années à cause des blessures ici et ça. Mais là, cette année, depuis qu'il est revenu au jeu avec Vegas, il est absolument dominant. Il est sur un rythme de 2 points par match. Ouais,
mais
ça va être un des joueurs clés de cette équipe canadienne.
Ah, assurément. Puis, tu sais, si on regarde le patin, c'est clair que Mark Stone, c'est un clash avec les autres parce qu'il n'a pas cette vitesse-là. Mais il a l'intelligence. C'est ce qui le fait en sorte que c'est encore un excellent joueur dans la Ligue nationale.
Il est gros aussi.
Il est gros, se positionne bien. Il a un excellent bâton pour gagner ses bagarres et protéger sa rondelle. C'est important, ça.
Ouais.
Ça y fait. Puis là-dessus, honnêtement, ça a été toute une pièce de jeu. Un des buts qu'on n'a pas encore traité, c'est celui de Bo Horvat. Là-dessus, c'est l'intelligence de Brad Marchand d'être capable de ralentir le jeu, de remettre en pleine explosion Horvat qui a fendu les défenseurs et qui a réussi à battre le gardien de légende.
Ouais, Bo Horvat, je pense qu'on sous-estime la vitesse que ce gars-là a, sérieusement. Il est capable de faire des percées comme ça. Puis quand il génère du momentum avec son gabarit, il prend de la place, il dégage de l'air et très, très, très intelligent. La petite feinte entre les jambes de Dostal. C'est important d'avoir des joueurs comme Bo Horvat, surtout sur le quatrième trio, parce que c'est du talent, c'est de l'énergie. Mais c'est de l'intelligence. Puis Brad Marchand, on l'a vu aussi attirer deux gars de la Tchéquie. C'est fou, ça. Puis on venait de parler de Stone qui fait en sorte qu'il ralentit le jeu, qui est intelligent. Marchand fait partie de ces joueurs-là moins vite, mais qui sont super, super intelligents. Puis encore une fois, on a eu la preuve.
Bo Horvat, Anthony Cirelli.
Ah, Bo Horvat. Mm-hmm. Je pense qu'il y a plus de upside offensif qu'Anthony Cirelli. Peut-être que défensivement, pour certaines missions spécifiques, Cirelli est meilleur, mais dans son ensemble, Borvat est capable de t'apporter beaucoup plus. Là. Le patin, la vitesse. C'est un gros gars quand même. Là. Il est capable d'être physique.
Exact.
C'est un centre de quatrième trio parfait pour un tournoi comme celui-là.
Parce que si on regarde la formation des quatre nations puis la formation des Olympiques, je le sais très bien que Cirelli avait été choisi. Mais là, il n'est pas là. C'est comme si tu avais vraiment un remplacement un pour l'autre. Moi, j'aime pas mal plus Horvat. Et surtout qu'au cercle des mises en jeu, c'est rien pour enlever à Cirelli, mais Horvat, il est efficace, il est capable de faire ça. Il a quand même des aptitudes offensives. Tu sais, honnêtement, il est intéressant, puis je pense que ça va être un bel ajout et il devrait bien être utilisé pour John Cooper. Bon, là, messieurs, deux autres matchs préliminaires qui devraient, à somme toute, être faciles. Qu'est-ce qu'on espère voir? Tu sais, on veut-tu vraiment gagner 10-0? Est-ce qu'on veut voir un échec avant soutenu? Est-ce qu'on veut voir encore un temps de glace qui est bien réparti? Qu'est-ce que vous souhaitez voir de la formation canadienne dans le tour préliminaire contre la Suisse et la France, qui devraient être en principe deux victoires acquises?
Ben pour moi, c'est d'avoir d'autres matchs propres. Tu sais, comme aujourd'hui, ça n'a pas nécessairement été une dégelée absolument incroyable de tu gagnes 10-0, mais ça a été 5-0. Tu n'as jamais été vraiment dans le trouble. Il n'y a jamais eu de période où tu t'es senti inquiet. Pas de but chanceux, juste une domination claire, nette et précise du début à la fin. Moi, c'est ce que je veux voir. Du hockey propre, du hockey efficace. Parce que si tu continues à jouer comme ça puis tu arrives en confiance dans la ronde éliminatoire, ben là, ça va être beaucoup plus facile d'adapter ton style de jeu à des varlopes faciles de 10-0. Mm-hmm. Là, c'est pas idéal non plus.
Ouais, exact. Moi, j'aimerais ça voir de l'intensité de la part des gardiens de but. T'sais, je sais qu'on va affronter la France puis la Suisse, mais c'est quand même, il peut y avoir des petits buts surprenants là-dedans. Ton nom verbal en dit beaucoup. Logan Thompson, ça va être sa première opportunité olympique. Jordan Binnington sort d'une grosse sortie. Les deux gardiens, en ce moment, ils ont un poste à perdre. Donc, on va voir comment Thompson se comporte. Mais je veux que tu sois là, je veux que tu sois solide envers tes arrêts. Je veux que tu aies un bon contrôle de retour, que tu sois capable de bien visualiser la rondelle, puis tu es capable de bien anticiper le jeu, même si peut-être que ça va aller moins vite dans ta zone. C'est important de rester là. Puis Logan Thompson va devoir vraiment se prouver parce que Binnington a fait vraiment une bonne job.
J'ai hâte de voir aussi les Américains tantôt, parce qu'au moment où on enregistre, on est après le match du Canada, bien évidemment, mais on est avant le match des États-Unis. Ce sera intéressant de voir de quel bois vont chauffer les États-Unis contre la Lettonie. J'ai personnellement hâte de voir s'il y aura représailles entre Charlie McAvoy et Sandis Vilmanis, parce que c'est Vilmanis qui avait asséné le coup de coude à McAvoy à la toute fin de la saison. Est-ce qu'on va passer les messages ou du côté de McAvoy, on a mis ça derrière nous et on a un objectif clair qui est de gagner la médaille d'or? Je pense que ça va être intéressant à ce niveau-là aussi.
Prédiction osée, je pense que les États-Unis, ils vont se faire chauffer par les Lettons. C'est leur genre d'être un petit peu distrait, ils pensent beaucoup au Canada, ils vont peut-être penser à se venger pour McAvoy. La Lettonie est capable de surprendre dans les compétitions internationales. C'est pas l'équipe avec le plus de vedettes. Ben, ils n'ont pas de vedettes, là. Ils ont quelques
ils ont Elvis, bons merci, joueurs.
Exact.
Albert
Smith. Albert Smith. Ouais.
Albert Smith. Ils ont battu le Canada au Mondial Junior l'an passé. Il y a 12 ans, ils ont failli battre le Canada aux Olympiques à cause de Christers Gudlevskis. Ça finit quoi? 1-0, ce match-là.
1-0, ouais, exact.
Je dis pas qu'ils vont battre les Américains, mais ça va être serré.
Moi, c'est quel gardien letton qui va se démarquer? Parce qu'on dirait qu'il y en a tout le temps un. Mm. Il y en a tout le temps un qui va faire 57 saves dans un match, puis après ça, tout le monde va parler de lui.
Ben, on en a vu deux hier.
Ouais.
Hein.
Mm-hmm.
Damien Clara. On le sent bien dans les prochaines secondes, là, mais s'il y aura aussi Damien Clara, là, l'Italien, l'espoir des Dogs d'Anaheim, repêché deuxième au total, qui a été fumé honnêtement pour l'Italie contre la Suède. La Suède qui a dominé le match avec 60 lancés, qui est un record. Mais au pointage, à un certain moment, en fin de deuxième période, c'était encore 2-2. Les gars, j'aimerais ça être en Italie présentement. J'aimerais ça aller voir les Jeux olympiques. Puis je suis convaincu que vous aimeriez ça aussi. Parce que comme pas mal tout le monde qui nous écoute, c'est le fun de voyager. Mais quand on voyage, on pense à plein de choses. On peut penser aux billets, on peut penser au restaurant, on peut penser au logement. Sauf que des fois, on oublie une chose bien importante. Les données cellulaires. Et c'est là où est-ce que ça peut faire mal parce que les données cellulaires qui ne sont pas prévues amènent des frais d'itinérance qui amènent des frais très, très dispendieux. C'est exactement pour ça qu'on utilise Cerly. Cerly, c'est une carte eSIM simple et ultra pratique pour rester connecté à l'étranger. Concrètement, une carte eSIM, c'est 100% numérique. C'est donc dire que c'est directement dans votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de changer votre carte ou d'ouvrir votre téléphone. Vous avez juste à downloader l'application et tout se fait absolument en ligne. Et une fois que vous avez downloadé l'application, vous choisissez le pays ou la région dans laquelle vous êtes. Et en quelques minutes, c'est activé. D'ailleurs, au moment où je parle, le code QR apparaît à l'instant à l'écran. Vous pouvez simplement scanner le code pour télécharger l'application. Nous, on l'utilise avant de partir. Vous pouvez l'utiliser directement sur place, mais il y a moyen de faire ça avant de partir. Ça enlève un souci, c'est une tranquillité d'esprit, c'est beaucoup plus simple. Et là, vous arrivez, vous pouvez déjà utiliser Google Maps, vous pouvez déjà faire vos messages, les réservations, sans avoir à dépendre du Wi-Fi public. Parce que ça, parfois, ça arrive en voyage. Les Wi-Fi ne sont pas tout le temps parfaits, un peu chancelants. Ça peut occasionner des problèmes. Et un autre bénéfice, tout ça est géré dans une seule application. Donc, très facile de suivre la consommation en temps réel. Si vous avez un voyage qui s'en vient, ça vaut vraiment la peine. Et en plus, vous pouvez encourager le podcast Radar en allant au Cerly.com/radar. Vous obtenez 15% de rabais sur votre premier achat. Je le répète, Cerly.com/radar et avec le code QR qui est aussi présentement à l'écran. Ça vaut la peine, ça vous permet de voyager sans stress et sans mauvaise surprise, Ali.
Merci beaucoup à Cerly de nous supporter parce qu'on ne serait pas ici sans nos commanditaires. Fait que moi, même moi, là, je m'en vais bientôt aux États-Unis aller voir des games de la NCAA au mois de mars.
Ouais.
Franchement, je vais devoir m'acheter Cerly. Fait que je vais utiliser le code promo RADAR pour avoir le rabais.
Parfait.
Puis,
ça.
C'est ça.
Bon, maintenant que le Canada s'est fait, les gars. J'aimerais ça qu'on regarde autre chose par rapport au tournoi olympique. Évidemment, la veille, on a vu Juraj Slafkovský. Il a été vraiment sensationnel. Puis on pourrait croire qu'il a une autre vitesse lorsqu'il représente son pays, mais moi, je ne suis pas prêt à dire ça. Non. J'ai vraiment l'impression que c'est Slafkovský en tant que tel qui est rendu à un autre niveau, tout simplement.
C'est le même Slav qu'on a vu en fin de saison l'an passé, le même Slav qu'on voit au moins depuis 30-40 matchs cette saison avec le Canadien. Tu sais, on est enfin en train de voir pourquoi il a été choisi premier au total, tout ce qu'il est capable de faire, être dominant physiquement. Mais ce qui m'impressionne avec lui cette année, c'est la confiance qu'il a pris sur la glace, être capable de transporter la rondelle, être capable de pas juste être un gars qui suit les autres, mais de générer de l'attaque lui-même aussi.
Ouais, c'est à la puissance 10, vraiment. On a beaucoup vanté le nouveau Slafkovský, le Slafkovský 2.0, lorsqu'il a été placé avec les jeunes, parce qu'il devait transporter son trio et il voulait faire la différence parce qu'il n'y a plus de Caulfield, il n'y a plus de Suzuki, tu n'as plus de vétérans. Mais c'est un peu le même principe avec la Tchéquie.
Mais avec l'équipe au complet.
Exact, c'est le go-to guy. C'est lui qui est sur les panneaux publicitaires en Tchéquie.
Ah oui.
C'est lui qui est la tête de proue de cette équipe-là, puis la figure de proue plutôt de cette équipe-là. Puis c'est lui qui doit faire la différence. Et hier, dès le début du match, but spectaculaire. Après ça, un peu plus tard, excuse-moi, ça me...
excuse-moi. C'est parce que je ne pouvais plus le voir, là. Fait que...
C'est pas grave.
C'est chill.
On recommence du début ou...
Non. Fait juste dire figure de proue. À partir, c'est la figure de proue de...
OK. C'est lui qui est sur les panneaux publicitaires. C'est lui la figure de proue de cette équipe-là. Puis tu le vois, là, dès le début du match, Ali. Prends la rondelle, feinte, fonce au filet, marque un but. Après ça, prends la rondelle avec confiance, décoche. Tu sais, il inspire vraiment présentement. Je vois la faire, la différence.
Puis c'est pas facile de faire ça quand t'as 21 ans. Ça vient avec énormément de pression aussi. La dernière fois, il l'a fait, il avait seulement 17 ans. OK, le calibre de compétition était moins fort, mais pareil, là, 7 buts en 7 matchs à 17 ans aux Olympiques, c'est tout un exploit. Là, il est en train, en tout cas, après un match. Ce qui rend ça encore plus impressionnant, selon moi, il l'a pas fait contre l'Italie ou la France. Là. Il l'a fait contre une équipe finlandaise qui est très solide, une équipe qui aspire à une médaille contre les Rantanen, les AO de ce monde. Tu avais un Miro Heiskanen qui joue en défense, Jussi Saros. Tu sais, Slafkovský est en train de montrer que il est capable d'être un leader dans une équipe. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour le Canadien.
Ça avait été tout du Canadien, justement, parce qu'on a décidé de lui attribuer un rôle de leader dès le départ, dès qu'on a vu que ça marchait moins avec Suzuki et Caulfield. Et il est en train de briser des records. La scène internationale lui fait très bien. Là, il est 9 buts en 8 matchs. Ouais. Timo Selanne, t'as 17 buts. Mais il reste encore quoi? 5 jeux peut-être à Juraj Slafkovský?
Il y a seulement 7 joueurs dans l'histoire des Jeux olympiques qui ont plus de buts que Slafkovský.
C'est quand même des joueurs de la Ligue nationale.
Il a 21 ans. Oui. Mais quand même, il a 21 ans.
Exact.
C'est fou à quel point il est vraiment en train d'accomplir. Hier, c'était son troisième match de 2 buts. Et t'as raison, le calibre était plus faible il y a 4 ans. Sauf que des jeunes de 17 ans qui performent sur la scène olympique devant le regard de la planète entière, il faut quand même être capable de souligner cet effet-là qui est... Il a su élever son jeu d'un cran. Il avait transporté la Slovaquie jusqu'à une médaille de bronze. Il avait été nommé joueur par excellence du tournoi. Là, je suis pas en train de dire qu'il va encore tout casser cette année, mais j'ai déjà hâte de voir le prochain match de la Slovaquie, par contre.
Et la Slovaquie va se rendre aussi loin que Slafkovský va les amener parce que, hey, honnêtement, là, à part lui, pas grand-chose sur cette équipe-là. Quand tu es obligé d'avoir Thomas Tatar sur ton premier trio,
ouais, exact.
T'sais, à part ça, c'est des Dalibor Dvorský, Simon Nemec...
Pas de gardien non plus. Pour Samuel Lavaille,
il y a des bons jeunes, mais Slafkovský, c'est le cœur et âme, c'est le meilleur joueur, le joueur le plus talentueux de cette équipe-là, de loin. Fait que ça va être vraiment intéressant de voir jusqu'où il va être capable d'aller. Puis ça met en confiance pour la suite, ça, c'est sûr.
En tout cas, il y a une très bonne énergie parce que pour vrai, là, être capable de s'imposer de la sorte là, de la part de la Slovaquie face à la Finlande, surtout dans un match où ça a commencé et c'était super lent. Là, la Finlande a dominé au niveau des lancers, mais plus le match avançait, plus on gagnait du momentum avec les performances de Slafkovský, avec les performances de Lavaille, le gardien de but. Ça faisait en sorte que on était capable de créer un effet de groupe, un effet de masse. Puis Dalibor Dvorský, il est jeune, mais il a quand même, je trouve, contribué à ça. Il a quand même scoré un but dans le match. Il y a quelque chose de particulier, puis des fois, c'est des histoires Cendrillon comme ça qui se créent au sein des Olympiques, au sein du tournoi qui peuvent être intéressantes.
Par contre, avec Slaf, tu sais, là, c'est cool. Tu le fais aux Olympiques, tu le fais en saison régulière, t'es-tu capable de le faire en séries éliminatoires? Parce que l'an passé, moi, il m'a laissé sur ma faim dans la série contre les Capitals de Washington.
À l'image de pas mal tout le monde,
oui,
par contre.
Oui, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait le edge. J'ai pas trouvé qu'il a amené la physicalité, la robustesse qu'on aurait pu s'attendre de lui en tant quand même qu'attaquant de puissance du Canadien. Il m'a déçu. Le Canadien risque fort probablement de refaire les séries cette année. Et là, on voit un Slav 2.0 en confiance. Mais il va falloir que ce soit ça aussi en série parce que c'est là que ça compte. Puis c'est là où un gars comme Slav peut s'illustrer encore plus. Là. T'es un attaquant de puissance, tu devrais être fait sur mesure pour les séries.
Mais tu vois, je le disais quand t'as commencé, puis je le pense vraiment, bien des joueurs du Canadien ont été surpris, je pense, l'année dernière en éliminatoire. c'était un baptême de feu pour plusieurs. Mm-hmm. Je pense à un Lane Hudson qui a été un peu pris de court. Je pense à un Ivan Demidov qui en était à ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale. Slavkovski n'a pas nécessairement cette excuse-là, mais quand même, c'était la première fois qu'il participait aux séries. Et contre les Capitals, c'était un peu accentué. On aurait pu affronter un autre adversaire, ça n'aurait pas été autant robuste.
Ouais.
Là, on se l'est fait mettre en plein visage. Et je pense que tout le monde a été en saison morte, puis finalement, la poussière retombe, puis fait « Ouais, OK, c'est un animal différent, les éliminatoires, et si on veut être capable de performer en pareilles circonstances, il va falloir que j'en donne un peu plus, que je finisse mes mises en échec, que je donne un coup d'épaule, j'aurais pas le choix de m'impliquer physiquement. »
Ouais, puis quoi de mieux qu'un tournoi, justement, contre les meilleurs pour être capable d'activer cette switch-là, puis c'est exactement ça qu'il fait présentement. Ça va faire en sorte qu'il va être de force, puis s'il peut amener ça pour le reste de la saison, ça va être imposant là, pour le Canadien.
Ouais, parce qu'en série... Tu peux être le marteau, tu peux être le clou. Là, l'an passé contre Washington, le Canadien était le clou. Ils se sont fait défoncer solide. Mais il n'y a rien qui dit que, là, cette saison, s'ils affrontent, je sais pas, les Red Wings, ou les Hurricanes, les Sabres, mais le Canadien peut être le marteau. Le Canadien peut être l'équipe qui impose son style de jeu physique, qui domine un petit peu le momentum dans la série.
Mais qui
mais
va faire ça?
Ça va passer par Slavkovski.
Qui va faire ça à part Slavkovski?
Anderson.
OK, après.
C'est tout.
C'est ça le problème. Mmh. C'est que je comprends qu'on aimerait tous ça parce que je pense que c'est un élément hyper important en série d'être capable d'imposer son rythme. Et c'est faux que l'intimidation n'a pas d'impact. C'est majeur comme impact rendu en série. Sauf que là, tu vois qu'un gars comme Samuel Blais ne semble plus avoir la faveur de l'entraîneur. Arber Jacquet joue seulement une poignée de minutes. Je serais pas surpris qu'on cherche à s'améliorer pour aller chercher un défenseur avec un peu plus d'expérience. C'est pas Brendan Gallagher qui est encore capable de déranger, oui, mais frapper, faire mal, non. Ça se résume pas mal seulement à Anderson et Slavkovski. C'est tough d'être le marteau quand t'as pas autant de munitions. Peut-être Bolduc. Je
pense que Bolduc. On pourrait peut-être donner un rôle à Bolduc là, par rapport à ça.
Mais sinon, tu sais, c'est quand même. Je pense que le Canadien est pas outillé pour être capable de faire ce genre de style-là.
Non, mais c'est là où ceux qui sont capables de le faire. Faut vraiment qu'ils step up, puis il faut qu'ils le fassent.
Ouais, puis ils vont comprendre dans des situations où ils sont présentement, puis peut-être en regardant aussi le comportement. Tu sais, Anderson, là, qui regarde le tournoi olympique là, sur la plage là, dans le sud, là, whatever, là, peut-être qu'il va voir de quoi, puis il peut s'inspirer. C'est pas parce que t'es un vétéran dans la Ligue nationale que quand tu vois tes coéquipiers jouer, tu penses que ton jeu est établi. Là. Tu peux apprendre des choses, puis tu peux te développer pareil. Là.
Ouais, par contre, Anderson, je pense pas qu'il y a grand-chose à se reprocher l'année passée des séries. Là.
Pas du tout.
Il a été vraiment une bougie d'allumage. Moi, écoute, ça va me rester longtemps dans la tête, son fameux combat contre Tom Wilson.
Absolument.
Au banc de l'équipe. Les gars, on parle de Slavkovski. Évidemment, le Canadien va reprendre l'action dans les prochains jours. Et fort probablement qu'un gars comme Alex Newhook pourrait revenir au jeu. Au moment que Newhook revient, est-ce que vous considérez l'option de replacer Newhook sur le trio qu'il formait à la base? Et vous déplacez Slavkovski à nouveau sur le premier trio parce qu'avec Kapanen et Demidov, ça fonctionnait quand même bien. Considérez-vous de démantibuler le deuxième trio et replacer Slavkovski sur le premier? Là où on cherche encore un peu, même si on a des pistes de solutions intéressantes avec Kirby Dach, le troisième morceau du trio.
C'est intéressant, pas facile pour de vrai comme question parce que tu vas-tu vraiment mettre Newhook sur le quatrième trio alors qu'il avait super bien commencé l'année, il mérite pas nécessairement ça. Le quatrième trio qui joue très peu, tu sais. Si t'es avec Evans et Bolduc, c'est pas là où tu vas vraiment t'illustrer offensivement. Puis je pense pas que Newhook, c'est nécessairement le profil d'un joueur de quatrième trio. Le troisième trio avec les vétérans, je trouve que c'est une belle unité aussi, que tu veux pas nécessairement défaire ça.
Mm-hmm.
Et c'est tough comme question, là. Mais...
On entend toutes sortes de rumeurs aussi par rapport... Pas rumeurs, mais Brendan Gallagher qui a des bons moments, mais qui ralentit. Ouais. Est-ce que lui, reposé, risque d'avoir un peu de sens dans le réservoir?
Sûrement.
Mais est-ce que lui pourrait... Ouais, oui. Être appelé à descendre sur le quatrième trio et placer Newhook avec Anderson et Dano?
Ouais, je pense que c'est peut-être
une alternative intéressante.
La solution la plus logique, mais je pense que ça reste qu'au final, le Canadien va devoir avoir une vraie solution pour finir l'année avec Suzuki et Caulfield. Faut que tu aies une réponse à cette question-là. Fait que ça va-tu être Dach, ça va-tu être Texier, ça va-tu être Newhook?
Michael Hage?
Ouais, mais est-ce qu'on veut le mettre dans une situation comme ça rapidement?
Es-tu vraiment prêt pour ça?
Je sais pas, mais...
Il fait partie des candidats.
Il fait partie des candidats, assurément.
Parce que, tu sais, c'est une belle histoire, le deuxième trio, mais ton premier trio est plus important, là.
Si t'as Michael Hage qui s'en vient à cet endroit-là, tu te retrouves à avoir Kapanen, Slafkovský, Demidov et Age, 4 joueurs 22 ans et moins.
Ouais.
Quand même, ce serait spécial là, pour une équipe qui rentre en série.
Ah, si c'est sûr. Elle connaît du succès. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment prometteur pour le futur. Ouais, mais...
4 joueurs top 6. Là,
exact.
Je sais pas à quel point Age va être prêt pour ça, mais c'est assez clair qu'on va le voir. Puis tu sais, il y a du monde qui trouve que Nick Suzuki à 5 contre 5 qui apporte pas nécessairement l'attaque qu'on s'attendrait de lui, mais c'est normal quand tu joues tout le temps avec au moins un suspect à ton côté que t'es pas capable de générer autant d'attaques. Mm-hmm. La combinaison avec Caulfield est solide, mais l'autre ailier, là, depuis toujours, en fait, il y a eu des moments avec Slaf, mais on cherche toujours c'est qui ce gars-là.
Ouais.
Je t'ai pas entendu mentionner Patrick Laine parmi les candidats pour aller compléter le premier trio. On a
c'est
entendu...
une blague en ce moment?
Non, c'est ma transition vers le prochain sujet. Okay. On a entendu au cours des dernières journées un article via Marco D'Amico, qui est d'ailleurs ici, collaborateur à Processus, comme quoi ce serait hautement improbable que Patrick Laine termine la saison avec le Canadien de Montréal, voire même, il ne serait pas surpris qu'il soit échangé dès la fin du gel des transactions. Est-ce que vous entrevoyez justement Laine quitter? S'il quitte, va-t-on devoir payer pour le sortir de Montréal?
Ouais, je pense qu'on n'aura pas le choix. Là, je pense que Patrick Laine, quand même, la vision de Patrick Laine au sein de tous les DG de la Ligue nationale semble être similaire. Il faut quand même que le Canadien soit généreux s'ils veulent s'en débarrasser. Comme les Blue Jackets l'ont été quand le Canadien ont été quand le Canadien a décidé de le prendre, tu sais,
pas raison. La même chose par contre.
La même chose,
mais quand même.
Mais ça reste le même gars.
Oui, le même gars, mais il y a une grosse différence entre 2 ans de contrat et 20 matchs de contrat. Là. Son salaire, surtout si on retient 50% de salaire, ce que les Jackets n'avaient pas fait.
Mm-hmm.
Le Canadien, s'il échange, 50%, c'est une évidence. C'est assuré.
Oui, de base.
Et, fait que là, on le ramène à 4 points quelques millions.
Au prorata, il va rester 20 matchs à la saison. Fait que le salaire va pas être si élevé que ça.
Fait que c'est un autre 20% de ce 4 millions-là. C'est même pas 1 million. Là.
Mais ce ne sera pas un choix de 2 encore. Mais peut-être aux alentours d'un choix de 5 comme Carey Price, là, ouais. Tout ça, un choix de 4.
Et ça, y a-t-il quelqu'un qui s'opposerait à ça?
Ben,
pas vraiment.
Est-ce qu'il y a. Non, pour le Canadien, non. Mais y a-tu tant d'équipes qui veulent le prendre, même sachant que tu vas recevoir un bonbon, entre guillemets? Ça vaut-tu vraiment la peine un 4e tour pour un gars qui. Ben, partout où il va, c'est comme. Coup-ci, coup-ça. Là. Ça finit jamais bien, Patrick Laine.
C'est vrai. Si tu penses à aller chercher à. Ce qu'on appelle un cap d'homme par l'anglais, là, vraiment comme un boulet fiscal, je pense pas que ça vaut la peine. Mais si tu penses aller le chercher parce que l'année dernière, tu l'as vu débarquer au retour de blessure, marquer de gros buts et permettre aux Canadiens de rentrer en série, et que tu regardes ta formation puis que tu te dis « je pense que j'aurais besoin d'une étincelle sur mon avantage numérique » ou tout simplement parce que il n'y a aucun joueur disponible ou presque via le marché des transactions. Et là, j'en aurais un disponible. Mmh. Comme directeur général, je fais un ajout, ça ne me coûte rien. J'envoie un message positif à ma base de partisans. Tu sais, il ne faut pas oublier ça aussi. Là. Les DG à la date limite, là, ils sont scrutés. Là, quand ils restent assis sur leurs deux mains, entre guillemets, les fans n'aiment pas ça. Là.
Non, puis je pense que le mot-clé de ce que tu viens de dire, justement, c'est étincelle. Parce qu'on l'a vu sur un court échantillon de match, Patrick Laine a quand même été bénéfique pour le Canadien. Puis si on prend en considération que c'est l'histoire d'une fin de saison puis des séries, ben, c'est pas mal l'échantillon parfait pour une production estimée de Patrick Laine. Parce que Patrick Laine va te donner ça, puis après ça, ça va être mort, c'est terminé. Fait que ça, c'est un contexte intéressant.
Où est-ce que vous le verrez pour de vrai?
N'importe qui veut le prendre, prenez-le.
Mais quelle équipe va penser ce que tu viens de dire? Tu sais, de comme « Ah, ben nous, on veut faire les séries, on va aller chercher Patrick Laine. »
Ben, une équipe dans la course.
Non, mais on sait pas. Peut-être qu'une équipe qui peut avoir une blessure. Tu sais, les Jeux olympiques, ça peut entraîner une équipe qui a un avantage numérique qui en arrache. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas fait la recherche. Mais je suis convaincu que Kent Hughes est très actif à ce niveau-là. Puis honnêtement, si on arrête de marcher sur des œufs 2 secondes puis qu'on se dit les vraies choses, parce que des fois... T'sais, on tourne autour du pot, puis on. Moi, j'ai envie de dire les vraies choses. Patrick Laine, d'après moi, il est prêt à revenir au jeu depuis un bout.
Ah, c'est clair.
Et ça faisait l'affaire du Canadien de le laisser sur les lignes de côté parce qu'on était coincé au niveau de la formation et on était coincé au niveau de la masse salariale. Fait qu'on a réussi à convaincre le clan Laine de dire hey, reste sur les lignes de côté et on va tout faire pour essayer de t'échanger. Moi, c'est ce que je pense qui est arrivé.
Mais je veux dire, même sa femme, elle a fait une vidéo sur les réseaux sociaux où elle a dit. Ah, c'est stressant quand la date limite des transactions approche, puis tu sais que ton mari va se faire échanger.
Exact. Fait que d'après moi, là, pas mal dans le même bout, il y a eu conversation entre le clan du Canadien et le clan Lainé. Ce qui me fait capoter là-dedans, c'est que l'agent, ça n'a pas l'air à le déranger.
Parce que lui, il est agent libre cet été.
Exact.
Il va vouloir un nouveau contrat. Il faut qu'il se vende sa salade. Faut qu'il vende sa salade. Il faut qu'il prouve qu'il mérite sa place.
Ça va être le nouveau départ ailleurs.
Mais c'est pour ça que je comprends pas que ça n'a pas fait de remous, cette situation-là.
Ouais.
Puis ça, honnêtement, là, je vais le dire au conditionnel, mais si jamais c'était le cas, on contournerait le plafond salarial de faire ce genre de manœuvre-là. T'as pas le droit de laisser des joueurs blessés sur les lignes de côté comme ça. Là.
Non.
Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va cheminer là-dedans dans le cas Lainé. Mais une chose est certaine, ça va être un dossier très, très chaud à surveiller dès le retour en action de la Ligue nationale de hockey. Et on verra s'il va quitter sous d'autres cieux au final. Bon, OK, ça fait le tour, les gars, pour le cas Lainé. J'espère que vous avez apprécié le podcast à la maison. Ça a été un podcast un peu plus express.
Ouais.
Évidemment, axé sur le Canada contre la Tchéquie. Et on vous donne... Attends un peu avant, on avait eu des mots la semaine dernière. Hugo, tu avais eu Distillerie.
Oui.
Ali, tu avais eu Verru. Et j'avais eu embuscade. Voici où on a placé les mots de la semaine passée.
C'est vrai parce qu'il est tellement bon. Puis finalement, lui, il est comme je pourrais voir l'autre chose.
C'est vraiment un travaillant.
À la distillerie, je sais pas.
Pour moi, faut appliquer ce même standard-là à McKenna. C'est très décevant.
Il n'a pas été victime d'une embuscade. Là. Écoute,
non,
il s'est fait niaiser.
C'est aussi important de bâtir une culture. Il repêcherait jamais, peut-être un gars qui est peut-être méchant, mais une verrue comme Matvey Michkov. Là. C'est fini à Montréal à l'époque. Des Galchenyuk.
Alors voilà, on n'a pas eu de mots cette semaine parce que ça a été un épisode un petit peu condensé et chamboulé. On reprendra l'action à ce niveau-là la semaine prochaine et on vous donne rendez-vous pour un autre épisode de Radar en 7 jours.